Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci de votre fidélité à Mélomanie et bienvenue à tous ceux qui découvrent le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Nous sortons tout juste d'une semaine de folie, le mot n'est pas trop fort, sur le front des événements musicaux. Nous allons cependant essayer d'être le plus complet possible avec les camarades chroniqueurs que j'ai invités aujourd'hui à mes côtés. Bienvenue à Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. À Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Bienvenue aussi à Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre En Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre. Et bienvenue à l'invité d'honneur de ce numéro, le tromboniste Aymeric Fournes, membre également de l'Orchestre National du Capitole et membre du Quatuor Trombicelli, qui se produit lundi prochain 3 décembre à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, à l'occasion du deuxième concert de la saison des Clés de Saint-Pierre. Nous allons évoquer le programme de cette soirée avec lui en seconde partie d'émission, mais d'abord, je précise que ce numéro de Mélomanie est diffusé dans le cadre du Radiodon de Radio Présence. Nous avons besoin des dons de nos auditeurs pour faire fonctionner cette radio, investir dans du matériel et continuer à vous proposer des programmes de qualité et des émissions comme Mélomanie. Un seul numéro pour faire vos promesses de dons, le 05 62 48 63 00. Je répète, 05 62 48 63 00. Notez que vous pouvez également faire vos dons en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. Nous comptons sur votre soutien et votre générosité. Cela étant dit, retour maintenant sur la foisonnante actualité musicale de la semaine passée.
Mélomanie. Retour arrière.
C'est avec le concert Bac entre amis donné vendredi à la Halle aux Grains que nous allons inaugurer ce retour sur les événements musicaux de la semaine dernière. Concert organisé par les clubs Rotary de Toulouse au profit de la fondation Toulouse Cancer Santé et qui réunissait les pianistes David Frey, Audrey Vigoureux, Jacques Rouvier et Emmanuel Christian, accompagnés par l'ensemble à cordes de l'Orchestre National du Capitole. Au programme, 5 concertos pour 2, 3 ou 4 pianos de Jean-Sébastien Bach. Autant dire que cette soirée consacrée à la fois à la musique et à une belle cause présentait des œuvres qu'on entend très rarement et un plateau de musiciens lui aussi peu commun. Nous y étions tous les deux, Robert Pénavert, dans une Halle aux Grains, ma foi, bien remplie. Votre avis sur cette soirée que vous avez largement contribué à organiser d'ailleurs?
Effectivement, et d'ailleurs à ce titre-là, je me sens pas très légitime pour en faire la critique artistique. Bien sûr, Eric, vous allez le faire, j'en suis sûr. Personnellement, j'ai passé évidemment une très belle soirée, au même titre que les 1800 personnes que nous avions réunies pour défendre cette cause qui est la recherche contre le cancer, puisque donc à la suite de ce concert, nous avons pu faire un chèque de 80 000 euros à la Fondation Toulouse Cancer Santé. Donc ça a été une soirée magnifique, les musiciens sont ravis d'avoir participé à cet événement et évidemment nous espérons tous pouvoir le renouveler. Nous rappelons qu'il a été fait évidemment en grande partie avec le soutien de la métropole, Jean-Luc Moudin, Thierry Dargoubet et Marie Desquets bien sûr.
Oui, alors ce que vous pouvez peut-être nous rappeler sans être critique de ce que vous avez entendu, c'est ce qu'il y avait au programme.
Alors donc effectivement il y avait 5 concertos, 3 pour 2 claviers, en l'occurrence aujourd'hui des pianos modernes, et un pour 3 claviers et un autre pour 4 claviers. Voilà. Et donc David Frey a joué l'intégralité de ces 5 concertos.
Oui, alors lui, il était dans tous les coups.
Il était dans tous les coups, effectivement. Et ensuite, les autres musiciens se sont relayés jusqu'à se retrouver tous ensemble, évidemment, pour le dernier.
Le bouquet final.
Qui réunit donc 4 pianistes et dans un son absolument incroyable. Et voir ces 4 pianos tête bêche comme ça sur le plateau de la Halle aux Grains, je ne suis pas persuadé que beaucoup de gens aient déjà vu ça il y a fort longtemps. Il faut rappeler tout de même que ce programme a donné lieu à un enregistrement cet été à la Chapelle des Carmélites, sous le label Erato. Cet enregistrement est sorti le 16 novembre et a beaucoup de succès. Toutes les radios, y compris les radios spécialisées, se font l'écho de cet enregistrement. Et ce concert que nous avons eu en définitive, dont en avant-première, avant celui, exactement ce concert, ce programme et ses interprètes, donné au Théâtre des Champs-Élysées, je pense, le 26 novembre, donc il y a peu de temps.
Oui, quelques jours après la première, puisque c'était une première en public. Donc,
je voudrais également, si vous permettez, Eric, juste deux secondes.
Bien sûr.
C'est que j'avais discuté il y a quelques temps de ça avec David Frey, alors qu'il était en tournée en Russie, pour lui demander, bon, est-ce que vous souhaitez faire, ou est-ce que vous souhaitez que nous le fassions nous-mêmes, demander au public d'être discret entre les mouvements, parce que bon, il y a 5 concertos, 3 mouvements chacun, ça peut donner lieu à 15 salves d'applaudissements. Et il m'avait dit, non, il n'en est pas question, vous laissez les gens s'exprimer comme ils veulent, nous avons l'habitude, ça ne nous déconcentre pas du tout, s'il vous plaît, n'intervenez pas là-dessus. Et en fait, à la surprise générale, y compris des musiciens, pas un applaudissement, mais je dis pas un, c'est
entre
pas
les
un applaudissement.
Tout le monde a été très sage, c'est vrai.
Entre les mouvements, et par contre, des explosions d'applaudissements à la fin du dernier mouvement. Même David Frey m'a dit, je n'en reviens pas de ça.
C'était un concert doublement émouvant. Un, parce que c'était la première fois qu'il jouait ce programme en public. Deux, parce que c'était pour une cause qui touche tout le monde. Et puis aussi, parce que c'était l'occasion pour Jacques Rouvier de se produire avec ses 3 anciens élèves, que sont donc David Frey, bien sûr, mais aussi Emmanuel Christian et Audrey Vigoureux. Je ne sais pas si vous en avez parlé de ça après le concert. Moi, j'ai regardé, et on l'a vu tous les deux, pendant tout le temps où il a joué avec eux, il respirait la félicité la plus complète.
Il irradiait littéralement, il a joué pendant toute cette soirée avec un sourire absolument incroyable.
Il avait un bonheur de jouer avec eux.
Incroyable.
J'imagine ce que ça peut être pour lui.
J'ai discuté un peu avec lui après les discours. Il n'arrêtait pas de sourire, il était sur une autre planète, tellement il était heureux. Je pense qu'il était très heureux de participer
à cette
manifestation, en particulier les 4 solistes ainsi que M. Rossignol, Daniel, je pense.
Oui, qui mène l'ensemble à corps de l'Orchestre national du Capitole.
Qui était là, et tous m'ont dit que vraiment, un concert comme ça, pour une cause pareille, avec un public pareil, avec un programme pareil, bah, ils en redemandaient, bien évidemment.
Oui, tout y était, c'est vrai. Je vais juste donner un petit avis sur ce que j'ai entendu. On ne peut pas échapper au jeu des comparaisons entre les 4 pianistes. Moi, celui qui m'a le plus ému, qui m'a le plus touché, que j'ai préféré, et je ne suis pas le seul, parce que j'en ai discuté avec d'autres personnes autour de moi, c'est Emmanuel Christian. Voilà, moi, c'est vraiment celui qui est ressorti pour moi par le son qu'il a, par la délicatesse de son jeu, par ce son qui illuminait tous les morceaux auxquels il a participé. Il n'a pas participé à tous, mais à chaque fois, il m'a vraiment bluffé. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas bien joué, mais voilà. Emmanuel Christian, peut-être le moins connu des 4. Ils ont tous le même âge, hein, David Frey, Emmanuel Christian et Audrey Vigoureux, à un an près. Ils sont tous de 81 ou de 82.
81, 82.
Oui. Voilà. Moi, je le découvrais. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui connaissent Emmanuel Christian ici. Peut-être Serge
Non, il faut dire que David Frey fait quand même une carrière beaucoup plus visible, on va dire.
Médiatisée,
surtout. Alors, voilà. Alors, les raisons, on les connaît jamais vraiment. Elles sont complexes, peut-être. Mais mais je retiens que c'est un pianiste à découvrir, en tout cas. Mais malheureusement, apparemment, les deux autres sont quand même un peu derrière.
Quant à Jacques Rouvier, je crois que dans le monde de l'enseignement, il est reconnu comme un pédagogue.
Bien sûr, ça a été un enseignant exceptionnel.
Il manque Hélène Grimaud à ce concert, c'est ça? Il n'y a pas de concerto pour 5 pianos, c'est pour ça.
Non, mais il a eu effectivement parmi ses élèves, bien sûr, David Frey, Hélène Grimaud, mais il y a eu David Cadouche, il y a eu Arkady Volodos. Mais bon,
Il avait peut-être pas besoin de...
Exactement. Alors, c'est marrant ce que vous dites, parce que quand j'en ai parlé avec Rouvier, très humblement, il m'a dit, vous savez, quand Volodos est arrivé entre mes mains, si on peut dire, il était déjà tout à fait formé. Volodos, c'est pas moi. D'autres se seraient pas gênés pour dire Volodos, c'est moi qui l'ai fait. Non, lui, pas du tout. Voilà. Alors, on va réécouter avec plaisir un extrait du programme de ce concert Bach entre amis, le même donc que celui du CD enregistré par les 4 pianistes et l'ensemble à cordes de l'Orchestre National du Capitole à la Chapelle des Carmélites en août dernier, paru récemment sous le label Erato. Voici le duo David Frey, Emmanuel Christian, parce que je tenais à faire entendre Emmanuel Christian. Il joue le premier mouvement Allegro du concerto pour 2 pianos BWV 1060 de Bach. Thank you. Le premier mouvement Allegro du concerto pour deux pianos BWV 1060 de Jean-Sébastien Bach, interprété par David Frey, Emmanuel Chrestien et l'ensemble à cordes de l'Orchestre National du Capitole, une des œuvres que nous avons entendues vendredi dernier à la Halle au Grain lors du concert organisé par les clubs Rotary de Toulouse au profit de la Fondation Toulouse Cancer Santé. Et je rappelle donc que les organisateurs ont remis à l'issue de ce concert un chèque de 80 000 euros à la Fondation, une très belle somme correspondant à la majeure partie de la recette de cette soirée qui sera très précieuse pour financer les projets de recherche et les nouveaux traitements contre le cancer à l'Oncopole de Toulouse. Le même soir, au Théâtre du Capitole, les Sacboutiers, l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse, créent leur programme Voyage en Nouvelle-Espagne sur les traces de Fernando Cortés, pour lequel le comédien Daniel Mesguich officie en tant que récitant. J'ai dit le même soir et j'aurais pu ajouter hélas, parce qu'évidemment, il est impossible d'être à deux endroits à la fois et c'est bien dommage, tant ce programme aiguise la curiosité. Serge Chosy était présent, lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette soirée, de ce programme et de l'accueil qu'il a reçu de la part du public ?
Bon, il a reçu un très vibrant accueil de la part du public. Il s'agissait en fait d'un concert lecture, d'un véritable spectacle autour, alors, de phénomènes incroyables, c'est-à-dire de pièces musicales dont la plupart étaient inédites, redécouvertes récemment, et de textes eux aussi inédits, qui accompagne la conquête de la Nouvelle-Espagne par les troupes sinistres sous un certain angle de Fernando Cortés à la grande époque, au XVIe siècle. Et donc, la volonté, c'était de faire une espèce d'alternance entre le récit et les pièces musicales, qui alors sont des pièces dont la majeure partie sont extraites d'un recueil qu'on appelle le Cancionero de Gaspar Fernández. Ce Gaspar Fernández est un compositeur donc, d'origine espagnole évidemment, et qui a officié en Nouvelle-Espagne. Et donc c'est un recueil qui a été découvert, qui existe, et dont les Sacboutiers ont retiré quelques extraits, aussi avec des extraits d'autres ouvrages et d'autres recueils de la même époque, notamment des manuscrits qui s'appellent manuscrits de Santa Eulalia, et donc qui étaient ici entendus pour la première fois. Déjà, c'était une découverte, et la découverte a vraiment fonctionné, c'est-à-dire que les récits inédits qui ont été déclamés en quelque sorte, mais avec beaucoup de simplicité, par Daniel Mesguich, ont été très forts. Hein. Il y a des récits de supplices à la fois des Aztèques et des Espagnols, des récits de pérégrination dans le continent pendant des mois, de ces soldats à la recherche de l'or de l'Eldorado en quelque sorte. Il y avait des récits franchement tellement cruels et tellement forts que quelquefois on en riait même, hein, parce que c'était vraiment incroyable. Et donc il y avait une espèce de mélange entre les musiques, qui elles aussi étaient extrêmement variées, des musiques de danse et des musiques aussi d'inspiration aztèque, hein, avec certains rythmes inspirés des habitants primitifs de cette Nouvelle-Espagne. Donc vraiment un défilé de textes et de pièces qui était complètement incroyable, avec notamment pour le dernier texte, alors il faut le signaler quand même, le dernier texte par contre lui était signé Antonin Artaud, et donc des années 1930, qui parlait des civilisations de ces pays, et en disant qu'on a un peu méprisé ces civilisations, en les qualifiant de civilisations en retard sur le monde moderne.
Sauvage.
Et en fait, on se rend compte que dans certains domaines, eh ben, ils n'étaient pas en retard. Nous ne sommes plus que ne l'étaient ces gens-là. Donc, vraiment, il y a eu quelquefois même des situations tout à fait cocasses, hein, avec notamment un texte sur la recette du cacao.
Oui, voilà. Quand Philippe Canguilhem et Jean-Pierre Canillac étaient venus à cette émission, ils nous avaient parlé effectivement de cette partie du programme.
Oui, c'est vraiment intéressant. Et on a pu écouter donc musicalement alors des pièces qui étaient jouées donc au cornet à bouquin. C'est Jean-Pierre Canillac, le cornet à bouquin, Daniel Lassalle à la sacoboute, Philippe Canguilhem qui est musicologue et, ce qui est rare, ça, Jean-Pierre Canillac s'attache chaque fois à le souligner, l'un des rares musicologues à être un excellent musicien en même temps, à la Chalmie, et puis Laurent Le Chenadec à la Doulciane, donc l'ancêtre du basson. Évidemment, Yasuko Uyama Bouvard à l'orgue positif et Florent Tesser aux percussions. Et là, il avait vraiment de quoi se déchaîner.
De quoi s'amuser.
Ouais. Ah oui, c'est beaucoup amusé.
Il n'a pas dû s'en priver d'ailleurs.
Une quantité de percussions incroyable. Vraiment, des pièces à la fois riches, complexes sur le plan rythmique et harmonique, héritées aussi bien d'une origine hispanique que d'un mélange avec les civilisations découvertes sur place. Hein.
Oui, ça doit être des ambiances très variées aussi, je suppose.
Très variées, absolument variées, avec des batailles, évidemment, plusieurs batailles, notamment de Fletcha, donc il y avait pas mal de choses dans ce domaine-là, mais aussi des passages poétiques. Hein. Alors, il faut quand même souligner qu'il y avait un quatuor de chanteurs tout à fait excellent, avec la soprano argentine Adriana Fernandez, qui est un peu la compagne habituelle, hein, de la compagne de route de l'ensemble. Hein. Et puis alors, trois hommes formidable, avec un alto, contre-ténor alto, David Sagastum, qui est basque-espagnol, lui. Les quatre étaient tout à fait hispanisants. Hein. Et c'était très important que l'accent soit le bon, évidemment. Et puis un ténor magnifique, qui s'appelle Victor Sordo, qui est espagnol lui aussi. Et la basse, elle, qui est d'origine italienne, qui s'appelle Daniele Karnovic, d'origine italienne, mais qui est un habitué, par exemple, des spectacles avec Jordi Savall, et donc qui est tout à fait habitué à l'accent espagnol. Voilà, c'était vraiment un grand moment.
Alors, je crois que ça allait au-delà de l'accent espagnol, ça allait même jusqu'à l'accent mexicain. Il fallait chanter avec l'accent mexicain.
Ah, absolument, absolument. Oui.
Ils ont dû travailler, je suppose.
Bon. Exactement. Alors, c'est amusant, là, Robert Penaver parlait de l'absence d'applaudissements pendant les mouvements des... Eh bien là aussi, le public a joué le jeu. Comme en plus, les récits s'enchaînaient directement avec les pièces musicales et réciproquement, bon, il n'y avait pas d'applaudissements entre les pièces. Heureusement, puisqu'il y avait 19 pièces. Hein,
oui,
donc
ça aurait doublé le temps du concert.
Un peu fort. Mais par contre, il y a deux pièces qui ont déclenché des applaudissements. D'une part, une pièce qui s'appelle Guaracha, Ay que me abrazo, d'un certain Zespedes, Garcia de Zespedes. Alors, c'est une chanson satirique pleine de aïe, aïe, aïe. Alors là, ça a déchaîné les applaudissements. Et une autre pièce, alors l'opposé, une pièce pour guitare seule et percussion, avec Eduardo Erguez, qui est un très grand guitariste, notamment pour les pièces baroques, et soutenu évidemment par la percussion de Florent Tisser. Là, ils ont joué ce qu'on appelle une jacara de Gaspar Sanz, et ça a été aussi...
Dont le titre est...
Jacaras.
Ah, c'est le titre, vraiment,
d'accord. C'est le titre, Jacaras. Donc, de Gaspar Sanz, et donc, ça a été un moment un peu magique qui a été aussi très applaudi.
Alors, information importante, je crois que Christophe Gristy a fait une annonce. Je ne sais pas si c'était avant ou après le concert, mais une annonce importante, et vous allez tout de suite la relayer auprès de nos auditeurs.
Voilà, en fait, Christophe Gristy a discuté avec les sacboutiers, et c'est Jean-Pierre Cagnac qui, à la fin du concert, a précisé qu'il était prévu, donc, dès l'année prochaine, les sacboutiers donneraient trois concerts au Théâtre du Capitole. Donc, trois programmes différents.
Une petite saison des sacboutiers au Théâtre du Capitole.
Une petite saison, donc c'est très très bien, parce que ce que l'on peut reprocher quelquefois aux sacboutiers, c'est qu'ils jouent plus souvent à l'étranger qu'à Toulouse et dans sa région. Donc,
espérons qu'ils vont devenir prophètes en leur pays. Voilà. Robert Penaver.
Oui, alors évidemment, la concomitance de ces deux concerts au Capitole et à la Lograin a fait des centaines de frustrés, bien évidemment.
Oui. Dans les deux sens.
Dans les deux sens, bien sûr.
Oui.
Mais par contre, Serge, je crois, tu m'as dit que ce programme donnait lieu à un enregistrement.
Oui, absolument, oui. Le programme vient d'être enregistré maintenant, là. C'est fini depuis hier, donc a été enregistré.
Et on pourra acheter le CD, alors.
Et il y aura un album, des pièces musicales, il n'y a pas d'enregistrement. Des textes.
Je tiens le pari qu'ils le reprendront à Toulouse.
Ah ben il faudrait.
Oui, hein. Oui.
Ça serait vraiment très dommage que l'effort mis pour monter un tel spectacle
se réduise à une seule représentation.
Ah, oui, et les textes, on peut les trouver où les textes
Les textes, ben, moi je les possède évidemment, mais,
Mais ils seront peut-être sur le CD.
Sur le CD, bien sûr.
Un petit livret.
Sur la plaquette. Non, pas sur le CD, non, puisqu'ils ne seront pas enregistrés les textes. Ouais, c'est que la musique.
Oui.
Donc ils seront disponibles auprès des sacs-boutiers par exemple. On peut les trouver ces textes.
Voilà donc pour les sacs-boutiers. Le lendemain, samedi 24, à la Halle au Grain, deuxième concert de la saison des grands interprètes avec une affiche très alléchante, à tout point de vue. L'orchestre philharmonique de Radio France et les sœurs Katia et Gvantsa Bouniatichvili. Le programme était entièrement français puisqu'on y trouvait des œuvres de Ravel, la suite numéro 2 Daphnis et Chloé et la valse en version pour deux pianos, la suite Printemps de Claude Debussy et le concerto pour deux pianos de Francis Poulenc. Tout semblait donc réuni pour une soirée de belle musique. Serge Chosy, vous qui étiez aussi présent ce soir-là, est-ce qu'il en a été ainsi? Est-ce que le résultat était à la hauteur des espérances qu'on pouvait y placer?
Alors, les résultats ont été un peu disparates, en ce sens que le tout début du concert, donc, était donné par les deux sœurs Bouniatichvili dans la version pour deux pianos de la valse, qui est, bon, la valse, tout le monde connaît, c'est une pièce extraordinaire, hein, et la version pour deux pianos est magnifique. Et là, donc, elles étaient seules, sans orchestre, évidemment, et elles ont joué cette version pour deux pianos. Et là, j'avoue avoir été plutôt déçu par le manque de cohésion, de cohérence.
Oui.
Pas de cohésion entre les deux pianistes, hein, mais de cohérence de la conception. C'était très brouillon.
C'était informe.
On ne reconnaissait pas les thèmes.
C'était un peu informe.
Oui, exactement. Un peu informe. On ne suivait plus les thèmes. Il y avait des roubates tellement étirées par moments qu'on
perdait le fil. On perdait la mélodie.
Ah ben, par moments, c'était même un peu un magma sonore, hein, que les deux pianos restituer. Alors c'est un peu dommage, hein, parce que c'est quand même une œuvre formidable.
Oui, et puis venant de deux pianistes, d'une part, évidemment, qui sont habitués.
Alors évidemment, on connaît davantage Katia Bouniatichvili, qui est venue plusieurs fois à Toulouse et qui a fait de très belles choses à Toulouse. Hein. Mais là, vraiment, à mon avis, je ne sais pas s'il y avait une méforme des deux sœurs.
Ça arrive bien des sportifs, pourquoi pas des pianistes.
Mais bon, là, ce n'était absolument pas convaincant, vraiment. Elles ont repris un peu de la mesure, je dirais la mesure dans les deux sens du terme, avec le concerto pour deux pianos de Poulenc. Alors, un concerto bien connu, hein, un concerto formidable, hein, plein d'esprit, de finesse, de sous-entendu, d'humour.
À la Poulenc.
À la Poulenc, quoi. Alors là, c'était quand même mieux, même s'il y avait de très beaux moments. Et parfois, au piano, ça manquait aussi un peu de lisibilité.
On a l'impression qu'il y avait un peu de dilettantisme là-dedans.
Oui, c'est l'impression.
Ça ressemble à ça.
Pas au niveau de l'orchestre.
Non, au niveau de l'orchestre.
Vraiment. Alors, il faut préciser qu'elles ont donné un bis. Elles ont été très applaudies, d'ailleurs. Elles ont donné un bis, et ce bis était Libertango d'Astor Piazzolla. Bon, évidemment. Donc,
voilà, on est sûr d'emporter le morceau.
Ah oui, oui, là. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est ce qu'elles ont le mieux joué.
Oui,
tout à fait. Et puis, alors, la deuxième partie, alors, changement complet
d'ambiance. D'aspect. Je parlais d'ambiance tout à l'heure. Ah oui.
Alors là, il y avait d'abord la suite symphonique Printemps de Debussy, une œuvre de jeunesse, qui n'est pas si souvent joué, hein. Rarement, je ne me souviens pas de l'avoir entendu en concert ici à la Halle au Grain. Là, on retrouve les qualités de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, hein. Des qualités très françaises, effectivement. Et donc, Mikko Franck, qui dirige avec beaucoup de soin, beaucoup d'intelligence, de finesse, met un point d'honneur à revivifier le répertoire français de cette phalange qu'il dirige depuis 2015, hein,
je crois. C'est ça.
Ah, magnifique, vraiment un moment formidable. Et puis, pour terminer, bon, ça, c'est alors là, chef-d'œuvre absolu, évidemment, la deuxième suite de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel. Bon, là, une merveille, hein, avec un soin pour l'établissement des crescendo, le lever du jour, les chants d'oiseaux, tout ça, on y était, quoi. C'était une merveille. Avec un soin particulier pour le timbre des bois, des cordes, hein. Bon, tout était vraiment magnifique, là. Et le succès a été tel que, évidemment, ils ont donné un bis. Et dans ce bis, Mikko Franck a renoué avec ses racines, puisqu'il a joué, il a dirigé la valse triste de Sibelius, évidemment.
Parce qu'il est finlandais, précisément.
Il est finlandais, Mikko Franck, et donc là, il a tenu quand même à faire un petit hommage à son pays d'origine, et bon, magnifique, évidemment.
Vous avez été impressionné, manifestement, par sa direction.
Ah oui, alors, une direction incroyable. Bon, il dirige assis, puisqu'il a des problèmes de dos, santé. Problèmes de santé. Mais de temps en temps, alors paradoxalement, il quitte sa chaise, il quitte le podium et il s'avance vers les musiciens pour s'approcher encore plus des premiers pupitres de cordes. Donc c'est assez amusant sa manière de se comporter à la tête de cet orchestre. Mais c'est vraiment un grand chef et un bel orchestre.
Très bien. Alors, pour donner un petit aperçu du programme joué samedi à la Halle aux Grains, voici une version de Printemps, la suite pour orchestre de Claude Debussy, interprétée bien sûr par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction de Mico Franck. Printemps, la suite pour orchestre composée par Claude Debussy, une version de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mico Franck. Une des œuvres qui était donc au programme du concert des grands interprètes samedi dernier. Et pour terminer cette première partie, nous allons maintenant revenir sur les premières représentations de La Ville Morte, l'opéra d'Erich Korngold, toujours à l'affiche du Théâtre du Capitole. Il reste en effet deux représentations ces samedi 1er et mardi 4 décembre. Plusieurs d'entre nous ont pu découvrir cette production. Je vais donc les inviter à partager leurs impressions avec nous, et on va commencer par notre monsieur opéra, Robert Pénavert.
Écoutez, moi d'abord je voudrais saluer l'initiative du directeur artistique du Théâtre du Capitole, Christophe Christie, qui a souhaité, dès sa première saison, mettre cet opéra au répertoire, parce que c'est une œuvre majeure du XXe siècle, indiscutablement. Hein. Et vraiment, il fallait pas du courage, mais il fallait la volonté de faire ça, et je le salue, bien bas. Ensuite, il a opté pour louer une production qui a été donnée il y a 6 ans, je crois, à l'Opéra National de Lorraine, qui est une production mise en scène par Philippe Hellman, qui était parfaitement lisible, avec un tableau central très coloré, très vivant. Ensuite, une production un peu métaphysique, avec des personnages qui ne se croisent pas, dont on est bien dans le fantasme de cette ville morte, qui est le parallèle de Bruges la morte, hein, bien sûr, hein, et le travail de Dieuil, de Paul, le fait qu'il veut rester fidèle à tout prix à son épouse défunte, Marie. Cette production montre bien l'enfermement de Paul dans cette névrose, puisque c'est une véritable névrose. Oui, voilà. Oui. Alors ensuite, moi, ce que j'aimerais souligner et qui me vient immédiatement à l'idée, c'est l'orchestre. C'est vrai, c'est un orchestre qui est rutilant, flamboyant, chatoyant, mais il ne fait pas que du volume. Hein. C'est un orchestre avec beaucoup de sensibilité, de couleurs, et c'est un orchestre très important. Très très important, puisque je pense à l'origine Korngold souhaitait 120 musiciens pour cet ouvrage, et vraiment l'orchestre du Capitole sous la direction de quelqu'un que personnellement je voyais pour la première fois, le chef d'orchestre Léo Hussein, a fait un travail tout à fait remarquable et a été largement ovationné au salut final, au même titre que tous les autres interprètes. Alors, justement, au sujet des interprètes, évidemment, il y a deux interprètes majeurs dans cet opéra, c'est Paul et Marie. Paul, qui doit avoir les qualités d'un Helden ténor, parce qu'on lui demande une tessiture très tendue dans le haut du médium, et affronter un orchestre quand même, à certains moments, assez tellurique. Mais en même temps, Korngold lui demande toute la musicalité d'un grand lyrique, avec sur la partition des doubles pianos, des triples pianos sur des si bémols, bon, voilà, etc. Donc c'est un interprète très difficile à trouver. Alors, en l'occurrence, Christophe Christie avait convoqué Thorsten Karl, mais j'en suis sûr, puisque lui-même me l'a dit, s'il n'avait pas eu la signature de Thorsten Karl, qui est le Paul d'aujourd'hui, il n'aurait pas monté la ville morte. Le soir de la première, parce que Serge n'était pas la même représentation que moi. Moi, je devais aller à la première, et donc le soir de la première, Christophe Christie a été amené à faire une annonce, puisque donc Thorsten Karl avait un problème très, très classique en l'automne. Voilà. Mais malgré tout, il a été remarquable, même s'il y a, en fin de représentation, il y a eu deux ou trois flottements. Mais quand on pense à la difficulté de cet ouvrage, bah, deux ou trois flottements sur une tenue d'un autre, ça ne veut strictement rien dire. Voilà. Et ensuite, il y a Marie. Marie, alors là, nous avons fait, enfin personnellement, j'ai fait connaissance avec une soprano russe, Evgenia
Mouraveva.
Mouraveva, voilà, merci, qui a priori était pensionnaire du Mariinsky, et où elle chante tout, elle chante Salomé, elle chante tout le répertoire russe, elle chante Butterfly, elle chante Tosca, etc. Elle chante Lady Macbeth de Mzinsk, qui n'est pas rien, et c'est d'ailleurs en l'écoutant à Salzbourg, où elle venait en remplacement de je ne sais quel autre soprano, que Christophe Christie l'a entendu et l'a embauché pour venir chanter sa première Marie au Théâtre du Capitole. Et également, c'est un rôle, c'est pas un rôle soprano-wagnérien très clairement, mais enfin, c'est un rôle de très grand lyrique et en même temps, c'est un rôle qui réclame un engagement dramatique. Voilà. Et donc, je pense qu'elle réunit toutes ses qualités. Alors ensuite, il y a deux clés de fa qui ont de très belle partie, une partie entièrement consacrée à des récitatifs, c'est le rôle de Franck. Et il s'appelle Matthias Winkler. Alors lui, il n'a pas d'air. Il n'a que du récitatif, mais il faut voir comment il a chanté ça. C'était remarquable. On sent dans sa voix quand même, je ne sais pas Serge si c'était de mon avis, mais on sent qu'il y a du potentiel pour chanter bien, bien d'autres choses, vraiment. Il s'appelle Matthias Winkler. Et ensuite, il y a celui qui a été, excusez-moi l'expression, doré sur tranche par le compositeur, c'est le tout petit rôle de Fritz. Le Pierrot, qui lui a l'air le plus connu de toute la partition, puisque tous les barytons, ce qu'en Allemagne on appelle les cavaliers barytones, ont ça dans les airs de concours, dans les airs d'audition, parce que c'est un air qui n'est pas extrêmement difficile à chanter, puisque bon, pour un baryton, il plafonne au fa dièse. Alors, si le baryton commence à avoir des problèmes au fa dièse, ça commence à poser des problèmes de carrière. Et là, c'était Thomas Dollier, le français de l'étape. Français, voilà. Oui. Il a chanté cet air qui est sur un rythme de valse sentimental, noble, etc. Viennoise. Ça a été un moment un peu hors sol, hors du temps, un moment merveilleux, voilà. Mais tout le monde était formidable, Tout le monde jouait, les musiciens. Serge Krichevski, c'était la première fois que tu jouais ça, j'imagine.
Oui.
Voilà,
oui.
Donc tout le monde chantait et jouait ça pour la première fois, mis à part le Paul, bien évidemment, et les chœurs dirigés par Alfonso Cayani se sont sortis du tableau central avec une maestria remarquable.
Comme souvent.
Je laisse la parole aux amis.
Oui, alors peut-être Serge Chauzy qui...
Oui,
c'est tout frais, vous venez de
oui,
découvrir.
Oui, tout à fait, oui. Donc là, je suis à peu près de l'avis de Robert. Alors il y a des petites différences. Thorsten Karl, dans la représentation à laquelle j'ai assisté, il était au contraire un peu en difficulté au tout début. Et il s'est amélioré tout au long de la représentation. Au début, on avait même du mal à l'entendre. Il ne projetait pas sa voix. Mais petit à petit, ça s'est amélioré. Et à la fin, magnifique. Donc, il a fait une performance formidable. Quant à la soprano, donc Marie-Mariette, vocalement, c'était tout à fait impressionnant. Elle n'a aucune difficulté avec le rôle. Elle le chante magnifiquement. J'ai trouvé que scéniquement, c'était un peu poussé, un peu surjoué. Mais alors, est-ce que ça vient d'elle ou est-ce que ça vient de la mise en scène?
C'est toujours la question.
Difficile à dire. Une mise en scène, moi, dont j'ai beaucoup aimé l'intelligence et la finesse. Les cellules qui constituent la scène, il y a six espace clos en quelque sorte, avec des personnages qui, lorsqu'ils communiquent entre eux, communiquent à distance, hein, ne sont jamais ensemble. Donc c'est très bien vu de la part du metteur en scène. Hein. Donc j'ai beaucoup aimé ça, notamment le passage du deuxième tableau, avec l'arrivée des personnages qui sont à Bruges pour jouer Robert le Diable de Meyerbeer, avec des allusions à la partition de Robert le Diable, évidemment, ça c'est amusant. C'est extrêmement bien fait, avec une belle mise en scène, un beau mouvement. Et puis effectivement, les deux barytons sont tous les deux excellents. Et dans le rôle de Brigitta, donc l'assistante, enfin
la gouvernante
de Paul.
De Paul, oui.
Magnifique.
Un ancien compositeur,
évidemment, Katharina Goldner,
qu'on a déjà vu. Dariana Naxos.
On l'a vu une dizaine de fois.
Ah oui, très souvent. Ah, oui. Et qui était très bien, qui incarnait bien. Alors, elle
n'a jamais déçu, apparemment.
Ah non.
Alors peut-être l'avis du musicien, parce que lui, il était dans la fosse d'orchestre, Serge Krzyzewski. La partition de Korngold.
Une partition, c'est l'époque de Freud, hein, je dirais surdéterminée, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'éléments, que ce soit instrumentaux, harmoniques, rythmiques, qu'on essaye de mettre en cohésion avec un chef qui a très bien fait son travail encore en ce moment. Et voilà, vraiment, je pense qu'on y prend tous beaucoup de plaisir. C'est assez chaud parce qu'en plus, il y a quand même 2h15 quasiment d'affilée. C'est pas l'Or du Rhin, c'est pas le vaisseau fantôme version enchaînée, mais presque, avec une musique qui bouge beaucoup, métriquement. Bon, évidemment, quand on est dans la fosse, on imagine tout ce qu'on peut sur scène, à partir des bribes qu'on a pu voir, costumes, chanteurs, éléments de décor. Mais c'est vraiment très, très agréable. Je pense que tous les pupitres ont vraiment beaucoup à jouer. Enfin, bon, il y a même, c'est l'époque, hein, une partie de mandoline, une partie d'harmonium. Voilà, les bois sont très sollicités, beaucoup
puis,
de clarinettes.
Il y a même des musiques de coulisses ou de scène ou de...
Oui, alors en fait, je pense que Korngold aimait beaucoup les cloches, parce que dans ces autres opéras, il y a très souvent comme ça des sonneries, des carillons plus exactement. Ouais. Et là, effectivement, on a déplacé, on a mis dans les loges de côté des réponses. Il y a aussi l'orgue de Miles qui est sur le côté. Bon, c'est très, très, très riche. Hein. Il y a des minuscules coupures, puisque la version est une version enchaînée. Les trois tableaux s'enchaînent. Mais bon, c'est une musique qu'il faut absolument se dépêcher d'aller découvrir avant de découvrir. Peut-être on peut rêver les autres opéras de Korngold, puisque le concert pour violon qu'on jouera bientôt commence à être bien connu maintenant et il mérite d'être connu. Mais il y a d'autres œuvres de ce compositeur, des œuvres symphoniques, d'autres concertos.
Concerto pour violon que l'Orchestre National du Capitole donnera le 8 décembre, donc dans quelques jours. Voilà donc pour La Ville Morte et cette production que vous pouvez encore découvrir et qu'il faut découvrir au Théâtre du Capitole. Il reste des places pour les représentations de ce samedi 1er et de ce mardi 4 décembre à 20h. Avant que nous fassions la pause à l'issue de cette première partie d'émission, je rappelle que le Radiodon se poursuit sur Radio Présence et je vais demander à mes chers camarades qui connaissent notre radio et participent à cette émission depuis longtemps maintenant ce qu'ils diraient à nos auditeurs pour qu'ils soutiennent Radio Présence en faisant un don. Pourquoi faut-il donner? Que propose Radio Présence qu'on ne trouve pas sur les autres radios?
Alors, si je peux me permettre, c'est simplement soutenir la seule émission radio à ma connaissance qui fasse la part belle non seulement à la musique classique, mais également à la critique de la musique classique donnée sur Toulouse. Alors évidemment, nous faisons de l'annonce, mais la moitié de l'émission est critique. Et en fait, nous apercevons que finalement, le public est assez demandeur de cette formule-là. Donc je pense qu'il faut soutenir l'originalité de la formule.
J'allais dire exactement la même chose. Effectivement, c'est une émission mélomanie qui a sa particularité, sa spécificité. Et donc, oui, effectivement, elle rend compte vraiment du maximum possible, dans la mesure du possible,
oui,
étant donné la richesse de la vie musicale.
C'est comme une émission qui dure près d'une heure, mais malgré tout, on n'arrive pas toujours à parler de tout.
Non, exactement.
On essaye.
Et puis hebdomadaire, hein, donc systématiquement. Oui. Donc, il faut absolument soutenir la radio qui organise ce genre de production.
Et peut-être Serge Krzyzewski qui vient à Radio Présence depuis longtemps, même avant l'existence de l'émission Mélomanie d'ailleurs.
Oui, effectivement, j'y suis venu les premières fois grâce à Pierre Bruel, j'ai connu également Madame Pavlak. Donc écoutez, effectivement, une radio, j'irais un peu décalée, mais dans le bon sens du terme, hein, qui propose des émissions qu'on trouve moins quand même sur beaucoup d'autres chaînes hertziennes. Donc encouragé absolument.
Eh bien, merci à vous trois pour cet appel aux dons. Je rappelle que pour soutenir notre radio et donc faire vos dons, un seul numéro, le 05 62 48 63 00. Je répète, 05 62 48 63 00. Et vous pouvez également faire vos dons en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. Petite pause d'une minute maintenant et nous nous retrouvons pour la seconde partie de l'émission avec notre invité d'honneur, le tromboniste Aymeric Fornes. Restez bien à notre écoute, à tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
La seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Culture 31 et Actu Toulouse, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre, et avec notre invité d'honneur, Aymeric Fornes, tromboniste de l'Orchestre National du Capitole et du Quatuor Trombicelli.
Mélomanie. L'agenda.
C'est donc le tromboniste Aymeric Fornes qui est l'invité d'honneur de Mélomanie aujourd'hui. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, il est membre de l'Orchestre National du Capitole, mais il joue avec bien d'autres formations, notamment avec les Sacboutiers, par exemple, avec le Toulouse Wind Orchestra, et j'en oublie sans doute, nous avons affaire là à un musicien très actif, très curieux, qui aime manifestement sortir des sentiers battus. Et bien justement, en parlant de sortir des sentiers battus, le prochain concert de la saison des Clés de Saint-Pierre, auquel vous allez participer, Aymeric Fornes, en apporte une preuve de plus. Son programme a été intitulé « Demain dès l'aube », en référence au fameux poème de Victor Hugo. Nous allons y revenir. Mais d'abord, je voudrais parler avec vous de la double originalité de ce concert. D'une part, il présente un quatuor composé de violoncelle et de trombone, que vous avez joliment et tout naturellement appelé Trombicelli, et d'autre part, le programme que vous avez construit est constitué de pièces musicales, mais aussi d'extraits de textes, d'où ce titre emprunté au poème de Victor Hugo. Alors nous, on va commencer par les musiciens. Comment est né cet étonnant quatuor Trombicelli, et qui sont les musiciens qui le composent ?
Le quatuor de trombone existe pour les cuivres. On fait beaucoup d'arrangements pour cet ensemble. Il y a eu nos anciens professeurs qui, eux, jouaient aussi un quatuor, parce que la musique de chambre, pour nous, les cuivres, ce n'est pas comme les cordes. On n'a pas un répertoire, on ne joue pas Mendelssohn ou des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup d'arrangements pour quatuor de trombone. Et dans l'orchestre, Marie et Lise, les deux violoncellistes qui jouent avec nous, ont un quatuor de violoncelle. Donc, on peut faire comme un parallèle entre les deux, trombone et violoncelle, qui ont la même tessiture, environ, on va dire. Et on a voulu essayer de voir si ça marchait, deux trombones de violoncelle. Donc on s'est retrouvés après quelques répétitions, en essayant de jouer leur arrangement, nos arrangements de trombone. Bon, il y avait des choses qui marchaient, d'autres non. Et on s'est demandé pourquoi on ne proposerait pas au Clé de Saint-Pierre un concert de notre ensemble qui n'existe pas, mais qui existerait.
Qui se crée pour l'occasion.
Voilà, exactement. Et voilà, c'est né de là.
Vous êtes sans doute les pionniers, je suppose, pour ce type de configuration.
C'est vrai que j'ai jamais vu. J'ai...
Oui, effectivement, je ne crois pas qu'il existe.
Moi, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé. Alors, pourquoi des textes cette fois-ci ? Je crois que c'est déjà arrivé à des concerts des Clés de Saint-Pierre. Pourquoi, en plus donc de cette originalité qui consiste à réunir deux violoncelles et deux trombones dans un quatuor, en plus vous avez mis des textes pour le programme ? Alors, est-ce que ce sont les textes qui illustrent la musique ou est-ce que c'est la musique qui illustre les textes ?
Alors, on est parti, comme je vous disais tout à l'heure, comme on ne va pas jouer une pièce du répertoire, le dernier concert c'était deux sextures de Brahms. On s'est dit, plutôt que de présenter chaque pièce, de dire pièce baroque, pièce classique, pièce... On s'est dit plutôt trouver une trame et que la musique illustre les textes. Donc, je suis allé voir Jean-Jacques Grolot, le dramaturge du Théâtre du Capitole.
Dramaturgie du Théâtre du Capitole.
Et je lui ai demandé, d'essayer de trouver par des textes, donc des poèmes, c'était la consigne, comme une trame, et nous, on illustrerait la musique par-dessus.
Voilà, donc c'est la musique, c'est ce qui paraît le plus logique, qui va venir illustrer ce qui sera dit dans ces poèmes. Qui va les réciter ? Il y aura un récitant pendant le concert, ou vous avez procédé autrement ?
On a procédé autrement, on a fait enregistrer à une personne qui s'appelle Nathalie Palmire, qui est la compagne du trombone de basse Fabien Dornic, qui a une voix céleste, c'est pour ça qu'on a fait appel. Ah, et donc,
une voix qui vient du ciel.
Exactement.
En voix off, ça va marcher, évidemment.
Voilà, et donc en voix off, les textes seront dits comme ça.
Qu'est-ce qu'on trouve parmi ces textes ? Donc forcément, je suppose que « Demain dès l'aube », le fameux poème de Victor Hugo, il y est bien ?
Oui, ça, il y est. On commence par ça. Et ensuite, l'idée vient donc de la fille de Victor Hugo. « Demain dès l'aube » parle de Léopoldine. Dans ce poème, on comprend qu'elle est décédée. Donc le concert commencera un peu comme ça, avec de la musique un peu religieuse, les écoles de Beethoven. Et ensuite, on part un peu dans l'au-delà, dans le paradis, dans l'enfer, on ne sait pas. Et toutes les musiques amènent ça, et les textes nous amènent par là aussi.
Mais il faut dire que Victor Hugo était assez versé dans l'occultisme, donc effectivement, ça tombe assez bien. Ça raconte une histoire, ce concert, finalement, à travers les textes et la musique.
Oui, une histoire vague.
Oui, que chacun peut ressentir comme il le veut, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a un vrai fil conducteur. Alors, les œuvres que vous allez jouer, vous, les musiciens, quatuor, violoncelle, trombone, il n'y a pas d'œuvre originale, je crois pas. Non. Donc, ce ne sont que des transcriptions. Comment vous avez choisi les œuvres et comment vous avez fait les transcriptions ?
Alors déjà, on a choisi les œuvres qui pouvaient marcher, où les voix étaient égales, parce qu'on a essayé différentes pièces des fois quand...
Ça fonctionnait pas.
Non, voilà. Et donc là, on joue les chansons de Debussy. C'est des chansons médiévales que Debussy a arrangées pour 4 voix. Donc ça, on l'a arrangé pour notre ensemble et ça marche très bien. Et ensuite, on a beaucoup de musique renaissance, parce que nous, les trombonistes, on est un peu des enfants des sacs-boutiers, et donc, comme ce projet, c'est vraiment nous qui l'avons créé,
à la base,
voilà,
oui.
On a mis de la musique, des pavanes, et justement, là, le son des cordes et des sacs-boutes, donc, parce qu'on utilise aussi la sacs-boute et notre trombone moderne dans le concert, marche très bien.
Mais les violoncellistes ne passeront pas à la viole, pour
non,
le coup.
Non, et ni au violoncelle baroque, ils restent sur leur violoncelle.
Parce que vous allez jouer de...
Oui, nous, on joue des deux, parce que comme ça, la couleur est mieux sur certaines œuvres.
Alors, effectivement, j'ai vu qu'il y a Claudio Monteverdi, c'est ça ou pas ?
On ne peut pas...
Dévoiler ?
Non, on ne peut pas dévoiler.
Ah
non,
bon.
Si, on peut dévoiler, mais en fait, comme on a fait la démarche inverse d'habitude, où on propose un programme et on est pris pour ça, nous, c'était l'ensemble, et comme il fallait illustrer la musique, notre programme a été censé...
C'est constitué petit à petit,
une évolution,
au
voilà.
Fil de l'eau et de vos tentatives.
Exactement.
Pour adapter des œuvres existantes à votre quatuor, violoncelle, trombone. Oui, parce que je vois...
Et je rajoute aussi qu'il y a un percussionniste pour ce concert aussi, qui est venu rajouter un petit grain de piment.
En permanence ou pour certaines œuvres seulement ?
Pour certaines œuvres.
Oui, alors je
vois. Mais il sera très présent.
Je vois qu'il y a aussi Guillaume Dufay. Alors, vous allez chercher très loin.
Comme on est dans l'au-delà, on s'est permis d'aller chercher dans toutes les œuvres.
Ça va quand même jusqu'à nous parce qu'il y a du Philippe Hersant aussi. Ça, c'est
des duos pour violoncelle.
On va écouter une des œuvres. Vous allez me confirmer qu'elle est bien celle de notre programme. Beethoven.
Les écoles.
Voilà, les trois écoles. Œuvre emblématique du répertoire pour trombone. Vous ne me direz pas le contraire.
Oui, oui.
Trois écoles pour 4 trombones de Beethoven. En voici un extrait.
Thank you.
un extrait des trois écoiles pour quatre trombones de Beethoven dans une version du Philip Jones Brass Ensemble. Aymeric Fournes, est-ce que c'est un morceau que vous avez déjà joué en concert en quatuor de trombone cette fois-ci?
Ça oui, je l'avais joué pour quatre trombones, elle a été écrite pour ça d'ailleurs.
Du coup, ça m'amène à la question suivante. Là, forcément, c'est transcrit puisqu'il y a les violoncelles en plus. Qui a fait les transcriptions?
Alors,
parce que ça doit être un sacré travail, je pense.
Pour cette pièce,
ça.
on a rien changé, on la joue comme ça.
Telle quelle.
Voilà, il fallait juste voir quel instrument marche sur quelle voix. Mais ensuite, par exemple, on a une pièce de Boyan Z, un pianiste jazz. Et l'arrangement, c'est Marie, la violoncelliste, Marie Gerbal, qui a fait tout ça parce qu'elle arrange très bien. Alors, on a de la chance. Je pense que quand un ensemble comme le nôtre voit le jour, il faut quelqu'un comme ça dans l'ensemble et on a de la chance de l'avoir.
Oui, parce que c'est mieux, je pense que c'est un des musiciens qui fait les transcriptions, sinon oui. Ça complique encore les choses.
Voilà, là c'est plus facile de...
Et puis vous pouvez en parler entre vous vraiment en temps réel, si je puis dire. Quel texte viendra illustrer ce morceau, vous le savez?
Les trois écoles, ben, c'est Demain des l'aube.
Ah ça, donc ouais. Le premier morceau que
voilà,
vous allez jouer.
Exactement.
Autre texte, en tout cas les autres auteurs qu'on va pouvoir entendre.
Il y aura du Paul Éluard, Gérard de Nerval et Sully Prudhomme.
Et pour la musique, je ne vous en demande pas plus, parce que j'ai cru comprendre que c'était toujours un work in progress.
Exactement.
Rien n'est arrêté.
Peut-être une question à Aymeric. La poésie, c'est très 19e quand même, globalement. Alors que la musique, très 19e, vous avez cherché quand même s'il y avait des correspondances de répertoire ou...
On n'est pas allé du tout dans cette
direction.
Non, c'était vraiment...
Parce que même Beethoven qu'on vient d'entendre, ça évoque pas beaucoup 1810 ou 1810.
Non, le poème de Mandelob est en trois strophes et on comprend petit à petit que c'est la mort. Dans la première strophe, on ne sait pas de quoi
oui,
il parle.
Oui, tout à fait. Oui, il est assez court ce poème.
Et donc, ça finit un peu religieusement. Et la musique religieuse, pour notre ensemble, on pensait que les écoles illustraient bien ça. Et donc, on n'a pas fait de recherche d'époque.
Mais la correspondance joue davantage sur les sonorités, le rythme, des choses comme ça.
Exactement, voilà.
Et puis après, chacun se fera, comme on dit, son film dans sa tête, son histoire dans sa tête. C'est le but, je crois, de ce concert. C'est la fin de cette émission. Et donc, pour moi, le moment de remercier une fois de plus Serge Chosy, Robert Pénavert et Serge Krichewski de l'avoir animé en ma compagnie. Je remercie bien sûr également Aymeric Fournes d'être venu nous rendre visite pour nous présenter le prochain concert des Clés de Saint-Pierre et son programme intitulé Demain dès l'aube. C'est donc à Saint-Pierre-des-Cuisines ce lundi 3 décembre à 20h avec le quatuor Trombicelli, deux trombones et deux violoncelles. Pour la première fois réunis, c'est sans doute même une première mondiale. Plus de la musique, plus de la poésie, une soirée rare qu'il ne faut pas rater. Je vous invite à vous informer et à réserver vos places sur le site www.lesclésdesaintpierre.org. Avant de rendre l'antenne, je rappelle que le Radio Don n'est pas terminé. Vous pouvez encore faire des dons pour soutenir Radio Présence et nous aider à vous proposer des émissions comme Mélomanie. Un seul numéro à appeler pour ce faire, le 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00. Vous pouvez également faire vos dons en ligne sur notre site internet www.radioprésence.com. Pour revenir à l'actualité musicale, je rappelle aussi que les représentations de La Ville Morte, l'opéra d'Erich Korngold, sont encore en cours au Théâtre du Capitole. Il en reste deux ce samedi 1er et ce mardi 4 décembre à 20h. Vous pouvez vous renseigner et faire vos réservations sur le site www.théâtreducapitole.com. Ce même samedi 1er décembre, toujours à 20h mais à la Halle aux Grains, concert organisé par l'Amicale des Arméniens de Toulouse-Midi-Pyrénées avec le trio Wanderer et le quartet du jazzman Médéric Collignon. Je rappelle aussi, toujours ce samedi 1er décembre, le concert de Noël de l'ensemble baroque de Toulouse. C'est à 17h à l'église de Portet-sur-Garonne. Vous pouvez réserver à partir du site internet de l'ensemble baroque www.baroquetoulouse.com ou en vous connectant à l'adresse www.passetonbac.festique.net. Et enfin, je signale le concert donné par l'ensemble À bout de souffle, dirigé par Stéphane Delinca à Audi-Sud, lundi 3 décembre à 20h30. Il y a le Magnificat de Bach et le Dies Irae de Delalande au programme. Renseignements et réservations sur le site www.audisud.com. Merci à Christophe Aubry d'avoir piloté la régie technique de cette émission, qui est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore d'être fidèle à notre écoute et merci de faire des dons pour nous soutenir. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine musicale.